Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Angélus, place Saint-Pierre, le pape invite les 50 000 fidèles présents à bien relire l'évangile de ce jour, celui qui parle de l'aveugle à qui Jésus donne la vue et des docteurs de la loi qui s'enfoncent dans la cécité à mesure qu'ils refusent de recevoir le message de Jésus. La fête du pardon, le pape a confessé lui-même vendredi dernier en la basilique Saint-Pierre, l'occasion pour nous de revenir sur ce sacrement de la confession trop négligé par la grande majorité des fidèles. Le Venezuela, toujours en crise, l'Église pourrait jouer le rôle de médiatrice entre le gouvernement et l'opposition, mais rien n'est déterminé. En attendant, il y a urgence à résoudre cette impasse politique qui enfonce le pays dans l'instabilité, comme nous l'entendrons au travers du témoignage d'un prêtre français, Philéi Donoum. L'invité du dimanche, c'est Jean-Claude Larcher, théologien orthodoxe. Catherine Aubin nous propose le second volet de l'entretien qu'elle a eu avec lui. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Notre vie est parfois pareille à celle de l'aveugle qui s'est ouvert à la lumière, à Dieu et à sa grâce. Le pape François, lors de la prière de l'Angélus ce dimanche midi place Saint-Pierre, est revenu sur l'épisode de l'homme aveugle de naissance à qui Jésus donne la vue. Tiré de l'évangile de Jean, il ne se concentre pas sur le miracle en lui-même, mais sur les réactions qu'il a suscitées. Le pape, devant la foule de fidèles rassemblés sous le soleil, a exhorté chacun à ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 9, et à relire ce passage afin de voir ce chemin qui porte de la cécité à la lumière et de la méchanceté à plus de cécité. Olivier Bonnel.
Il y a ceux qui voient Jésus et accueillent son message à l'image de l'aveugle, et il y a ceux qui sont aveuglés par leur orgueil et leur manque d'humilité, comme les docteurs de la loi. C'est le sens de cette parabole qui nous invite à ouvrir notre cœur à Dieu, à sa lumière et à sa grâce. Nous sommes invités, a dit le pape, à nous ouvrir à la lumière de Dieu pour emporter le fruit dans notre vie, pour éliminer les comportements qui ne sont pas chrétiens. Le pape précise alors que nous sommes tous chrétiens, mais que nos comportements ne sont pas tous chrétiens. Certains sont des péchés. Reconnaissons donc nos fautes pour cheminer avec décision sur la route de la sainteté, a-t-il dit, qui a son origine dans le baptême. C'est dans le baptême que nous avons été illuminés par le Christ, a poursuivi François, afin que nous puissions nous comporter comme les fils de la lumière, avec humilité, patience et miséricorde. Trois qualités qui manquaient absolument aux docteurs de la loi, qui n'ont pas su, comme tant de personnes qui ne veulent pas reconnaître les bonnes actions, voir le visage de Jésus. Plutôt que de reconnaître le mérite et le bienfait du miracle de Jésus avec l'aveugle, la foule, et surtout donc les docteurs de la loi, ont préféré la mettre en doute, cherchant des excuses pour demeurer, sans le savoir, aveugle à la parole du Seigneur. Le pape François invite avec insistance à relire l'évangile de ce dimanche pour suivre les traces de l'aveugle qui finit par voir et pour éviter celles des docteurs de la loi qui, du haut de leur orgueil, finissent par s'enfoncer dans la cécité.
Olivier Bonnel. Vendredi, on célébrait la fête du pardon, une fête au cœur du carême. 24 heures pour le Seigneur qui ont débuté vendredi soir par une célébration pénitentielle en la basilique Saint-Pierre, au cours de laquelle le pape François confessait lui-même plusieurs fidèles. Ce moment de pénitence s'est poursuivi durant la nuit dans plusieurs églises du centre de Rome qui sont restées ouvertes pour prier et se confesser. Cette initiative a été lancée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, dont l'un des membres, le père Didier Duvet, précise le sens et l'importance du sacrement de réconciliation.
C'est un acte de confiance, un acte d'amour, c'est surtout un acte qui me donne de me décentrer par rapport à moi-même, parce que finalement, qu'est-ce qui nous accuse ? Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « L'accusateur de vos frères est rejeté ». La victoire de l'amour, la victoire finale et totale du Christ, c'est la fin de l'accusateur, c'est-à-dire que le mal est ce qui nous accuse. Et ce qui nous blesse. Et donc le sacrement du pardon consiste à se libérer de cet accusateur. Et c'est la raison pour laquelle le sacrement se joue, se réalise, a lieu dans un rapport interpersonnel avec un prêtre, parce qu'il permet, le prêtre est justement, entre autres, ce signe de ce décentrement par rapport à moi, une conscience qui veut se laisser libérer de ce qui, à l'intérieur d'elle-même, l'accuse et l'empêche de voir.
Il y a donc une rencontre avec un prêtre, un confesseur. L'Église a-t-elle une part de responsabilité dans la vision plutôt négative que certains chrétiens ont de ce sacrement ?
Oui, sans doute, peut-être l'un ou l'autre des pénitents ont des mauvais souvenirs de confession, des mauvais souvenirs, il faut pouvoir l'avouer ou le dire, de paroles entendues par un confesseur, sans pour autant généraliser, bien sûr. Alors, je ne sais pas si de cela on peut tirer la conclusion que l'Église elle-même est responsable, mais de fait, il s'agit, dans la lignée de ce que dit le pape François, qui, d'une certaine manière, n'invente rien, mais il le dit fréquemment, il s'agit de s'approcher de ce sacrement qui est le sacrement de la miséricorde, de la libération et donc de la joie.
C'est un acte individuel, mais c'est aussi un acte collectif, c'est cheminer ensemble en l'Église.
C'est un acte individuel qui me restaure dans ma capacité de relation aussi avec les frères et sœurs chrétiens. Et à cet égard, ça a une dimension communautaire. Effectivement, la confession est un acte public, même si la confession elle-même est éminemment privée et même secrète. La confession est un acte public qui me restaure de ma capacité de relation avec toute la communauté.
Le père Duverne, du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, il était au micro d'Hélène Destombes. Le blocage politique perdure au Venezuela et les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont provoqué la mort de 2 personnes samedi, ce qui porte à 39 le nombre de décès survenus ces dernières semaines. Opposition et gouvernement sont tombés néanmoins d'accord pour discuter sous les auspices d'une médiation internationale et impartiale. Cette médiation pourrait être celle du Saint-Siège en la personne du secrétaire d'État, le cardinal Parolin, ancien nonce apostolique à Caracas. Le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a précisé que le cardinal Parolin est certainement disposé et désireux de faire ce qu'il est possible pour le bien et la sérénité du pays. Il faut cependant approfondir la situation, a tempéré le porte-parole du pape. À l'origine de cette crise, la contestation dont est la cible le président Nicolas Maduro et son gouvernement. Manuel Affigi a joint il y a quelques jours le père Georges Angel, prêtre Fidei Donum à Caracas depuis 11 ans. Son témoignage reste d'actualité et l'on voit que la possibilité que l'Église joue un rôle de médiatrice est évoquée depuis plusieurs jours, mais qu'elle reste pour le moment une hypothèse.
Dernièrement, le cardinal de Rossa a obligé tous les curés à lire en chaire un appel au dialogue et à la concertation. Mais un appel qui condamnait aussi la violence de la part des forces gouvernementales, et en particulier la violence de ce qu'on appelle ici les collectivos, et qui sont des cellules communistes qui ont été armées par l'ex-président Chavez et qui sont confortées par l'actuel président Maduro et qui sont chargées de défendre la révolution bolivarienne. Alors dans l'état actuel des choses, les membres de ces collectifs empêchent effectivement toute manifestation de se dérouler dans le calme et la sérénité. Ce que demande l'Église, c'est que les membres de ces collectivos soient désarmés et soumis comme tout citoyen à l'emprise de la loi. Alors, c'est vrai que la parole de l'Église est très forte en ce moment. Elle est entendue, mais elle n'est pas mise en pratique.
La parole de l'Église est entendue, vous venez de le dire, mais par qui ? Par les manifestants autant que par les autorités ?
Elle est entendue par les manifestants, elle est entendue par les autorités, c'est à voir, parce que il y a eu une conférence de la paix à la demande du président Maduro le 26 février dernier, mais quand on entend le discours du président, le discours est toujours aussi fort et violent, avec les mêmes slogans, ça ne peut pas contribuer, je crois, au dialogue et à la paix.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Place maintenant l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Aujourd'hui, elle nous propose le second volet de son entretien avec Jean-Claude Larcher qui nous parle de la vision orthodoxe du samedi saint et de Pâques. Jean-Claude Larcher est actuellement considéré comme l'un des principaux théologiens orthodoxes et l'un des meilleurs spécialistes de saint Maxime le Confesseur. Son œuvre est dominée par les questions d'anthropologie et d'éthique, touchant en particulier à la santé, aux différentes formes de maladies et de thérapeutiques, spirituelles, psychiques et corporelles, et à leur interaction. Pour traiter tous ces sujets, la réflexion de Jean-Claude Larcher fait appel à la théologie, à la philosophie, à la psychologie et à la médecine, mais s'appuie cependant d'une manière constante sur les écrits des pères de l'Église.
Jean-Claude Larcher, nous allons dans quelques semaines fêter Pâques, la résurrection du Christ, mais auparavant, il y a le samedi saint, le jour du grand silence, le jour de cette descente du Christ aux enfers.
Avant, il y a les souffrances du Christ, il y a la crucifixion, et c'est vrai aussi que le carême, si vous voulez, a cette dimension de crucifixion. Qu'est-ce que ça veut dire, lutter contre les passions? Ça veut dire les faire mourir en soi. Et comment peut-on faire mourir des passions qui sont si profondément ancrées en nous et parfois si inconscientes? Eh bien, c'est précisément par la grâce du Christ. Le Christ a souffert pour nous rapprocher de lui en évitant que ce poids de souffrance qui nous accable soit une cause de séparation d'avec Dieu. Il a, en souffrant, maintenu toujours sa volonté unie à Dieu et a vaincu pour nous les tentations du diable relativement à la souffrance qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'a pas par elle-même un pouvoir salvateur, mais aussi le redoutable pouvoir de nous séparer de Dieu si nous n'avons pas, dans les périodes d'épreuve, justement cet amour, cette espérance qui nous maintient attachés à Dieu. La souffrance, ça peut aussi inspirer aux hommes de la révolte, ça peut inspirer un éloignement de Dieu. Il y a des gens qui disent « mais pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce drame que j'ai eu dans ma vie » et qui, à partir de là, se détournent de Dieu. Et donc, toute forme de souffrance est une épreuve et le Christ, dans ses souffrances, nous acquiert la grâce de rester étroitement unis à Dieu quand nous sommes amenés au cours de notre vie, et c'est pratiquement inévitable, à subir des épreuves et où, avec ces épreuves, arrivent aussi des tentations. Et puis alors, la mort du Christ, c'est aussi ce par quoi il nous a acquis le pouvoir de ne plus redouter la mort. Et puis alors vient ce jour, comme vous l'avez dit, de la descente aux enfers, où le Christ descend aussi au plus profond des souffrances humaines et du désespoir humain pour nous donner précisément la force.
Comment dire aujourd'hui la résurrection du Christ pour les hommes?
L'affirmation de la résurrection, je pense, est quelque chose qui n'est pas facilement acceptable pour les hommes d'aujourd'hui, quelque chose qui suscite au moins l'interrogation, sinon le doute. Et précisément à travers les sacrifices que nous consentons pour le Christ dans notre vie, à travers notre foi, à travers nos témoignages, nous exprimons le fait que la résurrection est quelque chose de réel. Je pense que c'est vraiment en nous montrant nous-mêmes aux hommes comme des vivants. Et je crois que le meilleur témoignage que nous avons de ce qu'est la vie en Christ, ce qu'est la résurrection et la vie que l'on acquiert par cette résurrection, eh bien, c'est la grâce dont rayonnent les saints. Précisément, j'ai eu la grâce de connaître un certain nombre de saints, par exemple le père Païsios du Mont Athos, et c'est des gens qui n'étaient pas des intellectuels, c'était pas des gens qui étaient capables de faire des beaux discours, mais qui avaient un rayonnement de la grâce qui était présente en eux, qui était vraiment absolument convaincant, plus que toute parole. Et j'aime rappeler cette anecdote que l'on trouve dans les apophtegmes des pères du désert, de gens qui vont visiter saint Antoine et ils n'ont rien à lui dire. Et il dit « mais vous n'avez pas de questions ». Il dit « non, il nous suffit de te voir ». Et c'est vrai que la simple vision d'un saint, même dans les gestes de sa vie quotidienne, de sa façon d'être, est un témoignage absolument extraordinaire de ce qu'est la vie, tout simplement. Et pourquoi est-ce que cette vie rayonne? Eh bien parce qu'ils ont réussi précisément à travers la victoire sur leur passion à s'effacer totalement pour faire place en Dieu. Et ça correspond exactement à cette phrase de saint Paul « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ».
Parmi vos nombreux ouvrages, Jean-Claude Larcher, il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui concernent la santé. Quand on parle de santé, quand on est pathologue comme vous, Jean-Claude Larcher, Qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, qu'est-ce que la santé? C'est simplement l'ordre normal des choses tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que la maladie? C'est une perturbation de cet ordre. Alors cette perturbation, elle se perçoit à différents niveaux, au niveau du corps avec les maladies physiques, au niveau psychique avec les maladies psychiques ou les maladies mentales, et au niveau spirituel avec ce que j'appelle les maladies spirituelles et qui sont en gros les passions. Et donc, si vous voulez, ces passions, ce sont en réalité des dysfonctionnements de notre être à différents niveaux.
Le nom maladie.
Alors, d'où le nom de maladie spirituelle. Ce qui définit la maladie spirituelle et la santé spirituelle, c'est dans le premier cas une perturbation de la relation à Dieu ou l'absence même de cette relation qui est une maladie, parce que il est dans la nature de l'homme d'être uni à Dieu, d'être rattaché à lui, et quand l'homme oublie cette relation naturelle qu'il a avec Dieu ou qu'il la nie, alors il se trouve dans un état de perturbation, d'un état normal et donc dans un état de maladie. Et la santé, c'est au contraire un état où cette relation existe, pas forcément dans sa force la plus grande ou dans sa perfection, mais il suffit en fait que l'homme soit orienté vers Dieu et progresse vers Dieu pour qu'il soit déjà dans un état de santé. Ce qui est vraiment important, si vous voulez, c'est cette orientation de notre être vers Dieu et de cette activité de toutes nos facultés pour Dieu et en Dieu. C'est comme ça qu'on peut définir l'état de santé, où tout notre être est naturellement ordonné à Dieu, naturellement orienté vers Dieu et fait pour fonctionner, si je puis dire, pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, à son image pour réaliser sa ressemblance, et ça veut dire que nos facultés ont d'emblée une certaine orientation. Ou bien nous respectons cette orientation et nous vivons conformément à elle, nous agissons vers Dieu, pour Dieu, en Dieu, par Dieu, ou bien nous agissons sans Dieu, contre Dieu, en dehors de lui, etc. Et c'est ça le péché.
Qu'est-ce que vous diriez, Jean-Claude Larcher, de la passion dominante qui, aujourd'hui, éloigne l'homme contemporain de Dieu, et quel remède il peut trouver pour le rapprocher?
Le monde, quel qu'il soit, a toujours cette propriété d'attirer l'homme et de disperser l'homme. Et l'homme a toujours, quelle que soit l'époque où il vit, à faire cet effort pour retourner en lui-même et retrouver en lui-même la vie de Dieu. Et je crois que c'est pour ça aussi que les pères, si vous voulez, nous paraissent, bien qu'ils aient vécu parfois il y a presque 20 siècles, toujours aussi modernes, si je puis dire. Pourquoi ils nous paraissent nos contemporains? Parce que ils ont su traduire dans leur œuvre vraiment ce qu'il y a d'universel dans l'homme, ce que l'homme rencontre comme difficulté, mais aussi la façon dont il peut s'en sortir grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et donc, je dirais que l'enseignement des pères qui ont vécu seuls pendant 40 ans dans le désert est un enseignement qui nous touche parce que, justement, ils ont atteint, si vous voulez, à travers leur solitude, le sol, le fondement de l'existence humaine, qui est aussi présent en chacun et que chacun est appelé à retrouver.
L'amour des ennemis est-il le critère pour dire qu'il y a cette transformation de notre vie en Dieu?
Le vrai critère de l'amour chrétien, c'est précisément l'amour des ennemis. À partir du moment où on est capable d'aimer ses ennemis, ça veut dire aussi qu'on est capable de les aimer indépendamment de nos propres passions, indépendamment de nos propres intérêts, de nous-mêmes, celui qui est insulté, qui est ignoré, etc., et qui aime les autres, précisément, montre qu'il a un amour qui n'est plus du tout lié à son propre égoïsme, à sa propre individualité, mais qu'il a acquis précisément cette capacité d'aimer l'autre entièrement pour lui-même, en Dieu.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
J'aimerais dire que la richesse de tout l'enseignement chrétien se trouve d'abord dans l'Évangile, et que la richesse de l'Évangile nous est en grande partie révélée par les pères qui l'ont si bien commenté, et je pense que la richesse de l'Évangile se mesure encore plus quand nous devenons capables nous-mêmes de l'incarner dans notre propre vie. C'est vraiment là que nous la percevons et que nous arrivons à la connaissance de ce que le Christ a révélé à l'humanité, et qui est en définitive la richesse de sa propre personne et la richesse de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Jean-Claude Larcher, c'était l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Vous pouvez retrouver ce second volet et le premier sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.